Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Jeudi 3 février, bonne journée, bienvenue au 98,5 avec un matin un petit peu, disons, cocktail météo si vous voulez, de la neige, accumulation prévue aujourd'hui de 2 à 4 cm, on a eu de la pluie durant la nuit. Et notons que les températures seront à la baisse pour atteindre moins 6 au cours de l'après-midi. Bref, il peut y avoir des incidents comme le décrit Marc sur le réseau, mais possiblement que l'heure de pointe du retour sera un peu plus compliquée ou la soirée parce qu'on prévoit que ce soir et cette nuit, il y aura une accumulation de neige de 10 cm avec un minimum de moins 12 et la neige intermittente va se poursuivre jusqu'à demain matin, un autre 2 cm. Température autour de moins 11. Et l'aperçu pour le week-end, samedi, soleil et nuages, moins 13, et dimanche, assez couvert, assez nuageux, et moins 7 degrés. Juste avant de vous parler des convois, là, je veux revenir sur l'histoire de l'arrestation de ces trois entraîneurs de basketball. Évidemment, on n'a pas de détails, là, ils vont comparaître aujourd'hui, mais c'est plutôt rare, je ne me souviens pas, là, j'avais beau chercher, de voir trois entraîneurs arrêtés en même temps et qui travaillent au même endroit. T'sais, de voir un adulte responsable être arrêté pour des crimes de nature sexuelle, on a vu ça malheureusement trop souvent, mais d'en voir trois, c'est-à-dire est-ce qu'ils travaillaient ensemble, est-ce qu'ils abusaient ensemble, est-ce qu'ils savaient que l'autre faisait ça aussi? J'ai plein de questions, j'ai pas de réponse là. Mais j'avoue que c'est une histoire quand même assez bizarre, puis je me mets à la place des parents au fil des années, puis c'est sûr qu'il va y avoir d'autres plaignantes qui vont lever la main. Mais c'est quand même un sport d'élite, puis ça suppose aussi un bon nombre de déplacements. On va vous en reparler, bien sûr, tantôt. Bon, les convois. On va commencer par celui de Québec. Alors, les premiers camions devraient arriver, semble-t-il, ce midi. Et ça va s'étaler comme ça jusqu'au point culminant de samedi. Hier, vous avez entendu le maire de Québec, Bruno Marchand, ici à l'antenne. Il n'y a pas l'intention qu'on « jamme », pour reprendre l'expression, la ville de Québec. La police de Québec a dit hier, il n'y a pas de camions là, qui vont venir se stationner sur la colline parlementaire, au palais de Bonhomme, où déjà c'est fermé pour les autos, le camion, c'est réservé aux piétons. Puis c'est une fête, puis c'est un carnaval, puis on veut des visiteurs, puis on veut des touristes. Alors, où iront les camions? Où vont-ils s'installer? Et là, vous avez sur les réseaux sociaux des organisateurs, des leaders qui passent des messages, on en écoute un.
S'il y a des camionneurs qui ont des trucks saisonniers qui peuvent venir parquer, qui peuvent venir rester là, parce que ça va être un siège aussi à Québec, la manière que ça va marcher, ça va être, il va y avoir des trucks partout autour du Parlement. On va parquer ça là, puis on va staller ça là.
Bon, c'est pas une manif, là. En tout cas, dans sa tête, c'est un siège. Et ils vont stationner un peu partout des camions. Et là, j'ai hâte de voir l'approche de la police. On va les laisser venir jusqu'où? Le blocus va se faire de quelle façon? Puis est-ce qu'on va tolérer ce qu'on voit à Ottawa depuis samedi passé? Alors, donc, à suivre, la police dit avoir des contacts avec un certain nombre des organisateurs de ce mouvement. Puis encore là, c'est pas sûr ce qu'ils revendiquent, sur ce qu'ils affirment, mais c'est sur le siège. Et l'exemple d'Ottawa est frappant. Je vais vous dire, là, j'ai des courriels de gens de Gatineau qui en ont mais plein le casque. Des propriétaires de petits commerces, des coiffeurs, des pharmaciens, des paramédics, on lit ça ce matin, là, qui n'en peuvent plus, je lis ça dans le journal de Montréal, là, qui se font écœurer par des manifestants. Et je ne parle même pas de la qualité de l'air avec des moteurs diesel qui tournent comme ça toute la journée. Puis on le voit, là, l'espèce de pont de ravitaillement. Puis là, la police nous dit quoi? Bien, la police dit, en gros, c'est pas une job de police. On ne peut pas faire grand-chose. Puis on est rendu à bout. Puis on a épuisé pas mal toutes nos ressources. Puis d'ailleurs, je voyais un journaliste de TVA hier se faire écœurer, puis des policiers qui étaient un peu plus loin. Je comprends pas que la police s'est pas avancée. Tu sais, il y a un citoyen qui se fait écœurer de même, là. Il me semble que le minimum, c'est prêter assistance dans ces circonstances-là, mais ça, c'est une autre discussion. Puis, soyons clairs, là. Tu sais, que des gens revendiquent parce qu'ils sont tannés, puis qu'ils en ont plein le casque, comme la grande majorité des citoyens de ces mesures-là, puis de... C'est pas la manif qui fait en sorte que les mesures lèvent ou qu'il y a des assouplissements. Ça n'a rien à voir. Sérieusement, là. Et comment tu arrives à dénouer ça? Puis là, il y a deux attitudes. Justin Trudeau les regarde de haut en disant que il n'y a pas de temps à perdre avec eux, mais il ne se passe rien non plus. François Legault, lui, a changé de ton, changé de discours et se montre un peu plus bienveillant en voulant éviter que le Québec se chicane, que le Québec se divise, que le Québec se polarise. Il l'est quand même un peu. Mais est-ce que ça va faire en sorte que, en fin de semaine à Québec, ça va être différent du scénario qu'on voit à Ottawa? En tout cas, on se rend compte que pour beaucoup d'organisateurs, l'intérêt est le même. Disons, la volonté est assez claire, là, de faire un état de siège. Puis cette grogne-là, on la sent, là. C'est très palpable. C'est incompréhensible. Tu sais, beaucoup de gens m'écrivent, là, pour me donner des exemples de frustration. Le sport est un exemple, je dirais, qui revient souvent pour toutes sortes de raisons. Puis là, ça amène non seulement aux mesures, mais je dirais à la micro-gestion des mesures. Puis, j'écoutais ça hier, les différents points de presse, là, puis je me fais la réflexion suivante que je partage avec vous. Écoutez le docteur Boileau qu'on recevait hier matin. Puis là, on est en train de se demander, là, OK, le masque, je le mets-tu, je le mets pas à l'école, pas à l'école. Là, je me suis dit, là, est-ce qu'on peut juste se servir de sa tête? Puis ceux qui en ont pas, bien, n'auront pas plus, même s'il y a des mesures très strictes qui sont fixées. C'est quoi le message? Le message, c'est que faites du sport. C'est important, c'est nécessaire. Puis soyez prudent. Donc, essayez de limiter les contacts, porter le masque quand ça s'y prête, puis on comprend. Là, puis moi, je ne m'attends pas à ce que la santé publique me donne un guide détaillé. Quand ils font ça, là, c'est la dérape, on ne comprend plus rien dans leur message. Et les gens ne sont pas capables d'y adhérer. Faire appel à l'intelligence puis au jugement, me semble que c'est déjà un bon pas. Je n'ai pas besoin de tout me faire dire dans le détail comment enlever le masque. Quand le porter, je veux dire, je comprends qu'il y a un variant qui est contagieux. Je comprends qu'il y a une pression encore sur le réseau de la santé. Puis il n'y a personne qui fait exprès, là, en général, pour se mettre à risque, pour rien, ou encore pour contaminer les autres. Je comprends qu'il y a des gens là, qui pensent que ça n'existe pas, puis que c'est ridicule, puis que bon. OK. Mais je regardais ce matin dans Le Devoir, trouvais ça assez intéressant, où on donnait l'exemple de l'Irlande. Puis là, on a levé les mesures, là. OK, on est revenu quasi à la normale. Et la santé publique là-bas dit, je cite, « C'est pas que la pandémie est finie. » Puis ça se peut qu'il y ait des nouvelles versions du virus qui vont remettre à l'épreuve, je cite, le système de santé. Puis ça se peut qu'on arrive avec d'autres mesures. Mais eux, puis il y a une question dans le temps, là, de calendrier, se disent, faut réapprendre collectivement à avoir une vie sociale parce que le prix à payer est trop lourd. Mais quand vous regardez les propos de Québec, pas tout de suite. C'est le docteur Boileau dit, nous sommes à un moment charnière de cette pandémie. Il anticipe une hausse des hospitalisations au mois de février. Retour en classe, puis il va y avoir la semaine de relâche un peu plus tard, donc en mars. Alors, on a une fin d'hiver puis un début de printemps qui, en termes de cas, risque d'être, disons, élevé. Mais tu sais, la vie, c'est quoi, là? La vie, c'est qu'on peut reprendre un certain nombre d'activités. C'est pas parfait. Puis aller au gym, peut faire du sport. Puis comme Alain disait, là, ben beau s'entraîner, mais on peut-tu jouer? Puis on le voit dans les cas des enfants à l'école. Oui, il y a beaucoup de cas. Puis c'est une pression sur le système scolaire. Puis les profs, puis les... Bon. Puis encore une fois, tous les jours, je me lève en pensant aux parents qui sont comme à gérer les cas, en plus de leur job, là, c'est gérer les confinements, gérer l'école, pas simple, pas simple, pas simple, pas simple. Et c'est pas demain la veille là, que ça va se terminer. Juste un dernier point sur le dossier COVID, disons. Il y a une demande d'injonction qui a été présentée par des aidants naturels qui sont non vaccinés et qui ne peuvent plus donc aller voir leurs proches qui sont dans des centres de soins de longue durée pour s'occuper d'eux. Et l'avocate qui pilote le dossier, maître Natalia Manol, dit qu'il y a des conséquences dramatiques, qu'il y a des gens qui s'ennuient, qui sont d'une tristesse infinie, se laissent pratiquement mourir, donc qui ne mangent pas. Est-ce que tout ça est vrai, documenté, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sa prétention. Et c'est elle, d'ailleurs, qui représentait des employés du réseau de la santé qui ne voulaient pas se faire vacciner. Alors, avant la nouvelle directive, il fallait présenter une preuve pour les non-vaccinés de tests négatifs. Et là, depuis quelque temps, on a imposé la vaccination. Donc, vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas aller voir votre mère, votre père. Alors, est-ce que ça va être accordé? Puis en même temps, je rappelle que dans le réseau de la santé, on ne l'a pas appliqué. Il faut que les gens se fassent tester pour pouvoir continuer à travailler. Fait que, tu sais, ce sont des mesures comme ça qui dérangent. Puis j'ai des cas aussi de gens qui sont confinés dans leur chambre, dans leur appartement, parce que quelqu'un qui a la COVID, là, puis c'est des confinements de 10 jours pour des personnages. C'est pas drôle, là. Il y a des gens qui sont vraiment privés d'une certaine liberté de mouvement parce que le virus, malheureusement, fait encore des dommages. Et puisqu'on parle de résidence pour personnes âgées, la presse nous parle ce matin d'un cas où 21 personnes âgées ont été retrouvées déshydratées, mal nourries, qui ont été évacuées d'urgence par le 6 de Lanaudière d'une résidence privée pour aînés à l'Épiphanie. On les a envoyées dans un centre de longue durée à Joliette. Et il paraît que c'était épouvantable. C'est un établissement qui s'appelle le Phare de Paix. C'est privé, 34 lits. Il y avait, semble-t-il, une vingtaine de personnes. Et les gens, les bénéficiaires, sont des gens qui ont des problèmes cognitifs. Et ça a été complètement évacué dans l'après-midi et la soirée du 27 janvier. Et les propriétaires Robert Chartier et Lynn Sénécal possèdent cette résidence depuis 2008. Mais, semble-t-il, ils n'ont pas donné suite aux demandes d'entrevue. C'est épouvantable. Quand tu lis ça, là, tu peux pas croire qu'il y a des gens qui ont été laissés dans un état. Des gens déshydratés, donc, qui n'avaient pas eu de brossage de dents depuis un bon moment. Ça, c'est une employée qui raconte ça. D'autres, donc, déshydratés complètement. Leur santé était compromise. Et, tu sais, puis là, évidemment, c'est l'omerta. Là. Personne ne parle, tout le monde a peur. Les employés qui étaient là, ou qui, en tout cas, les gens qui ont, semble-t-il, de l'information. Autre exemple aussi d'irritant, quand je vous parle du mammouth de la santé. Puis tu sais, le gouvernement du Québec promet des primes aux employés, promet pour les inciter à même travailler plus, à passer de temps partiel à temps plein. Et des infirmières qui ont décidé de dévoiler les montants qui sont dus. Là, on ne parle pas de petites sommes, là. Et la presse donne quelques exemples. Julie, infirmière clinicienne. On me doit 8 904 $43. Une autre qui dit on me doit 3 741 $42. Et tout ça pour obtenir des sommes qui sont dues, là, qui ont été promises par le gouvernement, les fameuses primes puis tous les incitatifs financiers qu'on peut imaginer. Puis c'est assez normal de vouloir être payé. Puis là, je le sais, là, c'est le mammouth. Fait que là, le mammouth, le temps que le mammouth absorbe la directive, que le mammouth digère la commande, puis que ça se retrouve sur ton chèque de paye. Il y a bien des étapes, bien des processus. Sauf que toi, on te l'a promis, puis on ne te l'a pas donné. Puis c'est la même chose que je racontais l'autre jour pour cette personne, là, employée temps partiel, qui ne sait pas si on va lui rembourser les 4 jours de congé COVID qu'elle a dû prendre, parce que là, on n'est pas certain là, si ça s'applique ou pas. Mais tu sais, quand t'es monoparental, trois enfants, puis qu'on te coupe 4 jours de paye, puis qu'on t'explique que peut-être on va te le remettre dans 3 semaines, 1 mois, c'est un petit peu achalant, c'est un petit peu fatigant. Monsieur Jolin Barrette ne sera pas content parce qu'il y a un juge de la Cour supérieure qui a tranché que c'est la juge en chef de la Cour du Québec qui détermine si la maîtrise de l'anglais est nécessaire pour des juges quand elle attribue donc des mandats des juridictions. Alors, on sait que la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, se pogne assez régulièrement avec le ministre de la Justice, Jolin Barrette. Et parce que le ministre veut pas, lui, qu'on demande le bilinguisme tout azimut. Il dit que c'est pas nécessaire, puis il prétend qu'on n'a pas le droit de faire ça, toujours dans l'esprit de la protection de la langue française. Puis il y avait également un accrochage sur le fameux tribunal spécialisé en matière d'agression sexuelle. Alors là, c'est une première étape. J'imagine qu'on va aller plus loin, là. Mais c'est la Cour supérieure qui dit non. Ça, c'est dans la cour de la juge en chef, puis c'est elle qui détermine les critères puis les besoins qu'elle a. Puis c'est pas au ministre d'intervenir dans un dossier comme celui-là. Et je termine ce matin avec un texte de Sylvain Charlebois, l'expert en alimentation de l'Université Dalhousie. Depuis le 1er février, les produits laitiers ont comme enregistré des hausses importantes du prix. Et là, on le voit, là, que l'inflation frappe. Là, Marc parlait tantôt du prix de l'essence à 1,63 $, 1,64 $ à certains endroits. Et notre ami Charlebois pense que les familles devront dépenser de 10 à 15 de son budget alimentaire pour se procurer là le beurre, le lait, les œufs, le yogourt, etc., etc. Et la grande question, c'est toujours la même. Est-ce que les producteurs laitiers en profitent? Parce que les prix sont fixés par la Commission canadienne du lait. Puis il soulève cette question-là. Donc, il y a des augmentations parce que les coûts de production ont augmenté. Puis je sais qu'il y a quand même un bon nombre de producteurs de lait qui nous écoutent. Avez-vous l'impression que l'argent va dans vos poches ou, comme dans bien des cas, il y a des intermédiaires qui pigent au passage, puis les gens à l'origine du produit n'ont pas nécessairement les montants qui seraient, disons, qui seraient dus. Puis on a vu ça dans d'autres secteurs de l'alimentation où les intermédiaires, disons, collectent pas mal plus que le producteur sur sa terre agricole ou sur sa ferme.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Une histoire maintenant avec Bénédicte qui a secoué non seulement une école de Montréal, mais je dirais le sport scolaire en général. Il y a 3 entraîneurs de basketball qui ont été arrêtés pour agression sexuelle dans une école, l'école Saint-Laurent.
Oui, et c'est assez particulier parce que c'est pas un, c'est pas deux, 3 coachs en même temps qui sont arrêtés. Des coachs de basketball de l'équipe féminine de l'école secondaire Saint-Laurent. Daniel Lacasse, 43 ans, lui est responsable du programme de basketball de l'école. Il y a aussi 2 entraîneurs, Xavier Boilard, 43 ans, Robert Loup, à 31 ans. Ce qui est particulier aussi, c'est qu'ils sont particulièrement connus dans le milieu du basketball. Il y en a un, entre autres, qui travaille avec d'autres jeunes pour Équipe Québec. Il y a eu une opération policière hier qui a été menée par la section des agressions sexuelles du SPVM, qui a débuté hier matin à l'école, entre autres, qui s'est poursuivie jusqu'en après-midi. On me dit que les arrestations ont eu lieu à l'intérieur de l'école de manière assez discrète. Mais il y a eu des perquisitions également chez les suspects au cours de la journée où on est allé voir pour du matériel informatique, notamment. Et ce que les policiers disent, c'est que les agressions sexuelles auraient été commises sur deux victimes mineures qui auraient fréquenté l'école dans la période de 2008 à 2014. Mais il faut le souligner quand même, deux victimes, trois accusés. De ce qu'on comprend, c'est donc une victime qui aurait subi des gestes de la part des deux entraîneurs. Ça soulève énormément de questions. Les trois hommes qui devraient comparaître aujourd'hui au Palais de justice de Montréal et devraient faire face à des accusations de contact sexuel, d'agression sexuelle, d'incitation à des contacts sexuels et aussi d'exploitation sexuelle. Je le souligne, exploitation sexuelle en raison du rapport d'autorité.
Mais là, on ne sait pas si les trois, je dirais, coopéraient ensemble, si l'un savait ce que l'autre pouvait poser comme geste. Il y avait une complicité parce que c'était rare là, de voir trois entraîneurs du même club arrêté pour des crimes sexuels.
Et arrêté en même temps.
En même temps, c'est que ça a été dévoilé.
Mais de ce que je regardais dans les mandats d'arrestation, ce qu'on a pu voir, là, c'est que ça ne semble pas être des dates qui sont en même temps. Ça semble s'être échelonné, mais en même temps, ça soulève encore plus de questions. J'ai parlé avec des jeunes hier à la sortie des classes. J'ai rencontré une jeune femme, entre autres, qui était super bouleversée. Elle, c'était un de ses coachs. Elle devait avoir une pratique hier. Ça a été annulé. Ils l'ont appris un petit peu à la dernière minute. Elle dit, c'est vraiment quelqu'un en qui j'avais confiance, en qui, avec qui je pouvais aller parler, avec qui je pouvais me confier pendant plusieurs années. Donc, et il y avait des parents aussi sur place. Je peux te dire que c'est pas très rassurant pour des parents de savoir que ça s'est passé. Ça s'est passé il y a plusieurs années, mais ils étaient encore en poste. Dans les tournois de basketball, il y a souvent des événements à l'extérieur, des jeunes qui partent avec leurs entraîneurs. Tu le disais tantôt, c'est un choc pour les élèves, mais aussi pour le milieu du sport, pour le milieu du basketball avec les jeunes. Entre autres, j'en ai parlé dans les dernières minutes avec Daniel Grimard, qui est directeur général de Basketball Québec.
On est honnête avec vous, on est en état de choc. Là. C'est une situation qui nous a frappé de plein fouet hier. Là. Des gens qui sont impliqués depuis longtemps, beaucoup, qui sont en contact avec beaucoup de jeunes.
Justement, c'est pas exclu qu'il pourrait y avoir d'autres victimes. J'ai l'impression qu'une fois que la comparution va avoir lieu aujourd'hui, on risque de voir un communiqué justement avec les photos, avec les détails et peut-être qu'on va faire un appel à d'autres victimes potentielles. Mais c'est vraiment un dossier à suivre, un dossier assez particulier.
Merci, Bénédicte.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Des centaines et des centaines de milliers de Québécois se cherchent un professionnel de la santé. On dit souvent un médecin de famille, mais ça peut être aussi un autre professionnel. Le ministre Christian Dubé a déposé un projet de loi, 11, qui vise justement à améliorer l'offre de services. Et j'ajouterais également que ça polarise beaucoup. D'un côté, le ministre dit « je veux des données, je veux savoir que font les médecins, quelles sont les plages horaires disponibles et comment maximiser le nombre de patients pris en charge ». Hier, vous avez entendu le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec dire que c'était une chasse aux sorcières. Ce qui est intéressant, c'est autant le président du syndicat que le ministre donnent l'exemple d'une expérience vécue dans le Bas-Saint-Laurent, justement pour permettre à des patients orphelins de trouver un professionnel de la santé. Alors, on s'est dit, quelle est la recette? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Et de voir le syndicat puis le ministre donner le même exemple, il y a peut-être quelque chose à tirer de ça. Docteur Éric Lavoie est médecin de famille et chef du département régional de médecine générale au 6 du Bas-Saint-Laurent. Docteur Lavoie, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Alors, parlez-moi de votre expérience. C'est quoi le projet que vous avez mis sur pied puis ça fonctionne comment?
Alors, c'est un guichet d'accès. On appelle ça le guichet d'accès première ligne, le GAP. On fournit un numéro de téléphone aux patients qui n'ont pas de médecin de famille, puis on leur demande d'appeler à ce guichet-là s'ils expriment un besoin de santé dans le temps. Puis, une fois qu'ils appellent, on évalue leur demande, puis on les aiguille au bon professionnel. Parfois, c'est un médecin et parfois, ce n'est pas un médecin, c'est un autre professionnel ou c'est des conseils ou une autre orientation. Si bien qu'au fil du temps, ce qu'on se rend compte, c'est qu'une fois sur deux, le citoyen qui appelle dans son esprit, là, je pense, il veut faire régler son problème par un médecin de famille, puis finalement, une fois sur deux, on réussit à le régler autrement. Fait qu'on sauve la moitié des consultations.
Une fois sur deux, vous dites?
Oui, oui. Alors,
mais ça veut dire que vous référez le patient, je ne sais pas, à un pharmacien, à une infirmière ou.
Exactement. Alors, on a positionné le médecin de famille depuis longtemps là comme une porte d'entrée, un chef d'orchestre qui est à même d'avoir accès à une panoplie de services. Faut peut-être se re-questionner sur cette porte d'entrée-là, parce que finalement, quand on lui assigne cette fonction-là, il fait pas son travail de médecin de famille ou de médecin tout court, là. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, en aidant, en accompagnant les citoyens dans leur recherche de soins, Ben, le besoin de médecin de famille se fait pour la moitié des cas, puis dans l'autre moitié, on réussit à régler d'une autre façon.
Mais est-ce que les patients qui veulent voir et ont besoin de voir un médecin, est-ce que ça veut dire que ce médecin-là devient leur médecin de famille?
En fait, ce qu'on observe, c'est que les médecins qui nous fournissent des offres voient les patients, puis ce qu'on observe, c'est une fois sur 10 à peu près, là, il y a une inscription qui se fait. 9 fois sur 10, il n'y a pas d'inscription. Puis, ben, à ce moment-là, ça repose sur le guichet d'accès des médecins de famille, là, l'inventaire de patients, là, les 800 000 ou les 900 000 qu'on parle. Là. Chez nous, au Bas-Saint-Laurent, il y a une moyenne d'à peu près 400 jours pour être inscrit. Là. Fait que les patients, ils vivent leurs 400 jours de façon un peu plus confortable.
OK. Comment vous avez recruté les professionnels? Comment vous avez convaincu donc des pharmaciens, infirmières et autres professionnels là, de vous donner de la disponibilité?
Ben, c'est déjà dans leur fonction. Hein? Puis moi, si je vois un patient puis je pense qu'il a besoin de voir un pharmacien ou une infirmière, je fais faire une référence. Alors, qu'il passe par moi ou qu'il passe par un guichet, il y a la même référence. Alors, c'est pas plus ou moins de travail, c'est le même service, sauf que on se trouve à alléger la fonction de triage que le médecin pouvait faire.
OK, mais c'est comme un guichet, dans le fond, c'est comme un clic santé?
Oui, ça peut ressembler à un clic santé, mais c'est un service personnalisé avec des professionnels qui sont dédiés. C'est-à-dire qu'il y a une agente là, administrative qui recueille les données de la personne. Puis, au besoin, il y a une infirmière qui évalue son besoin. Les entrevues sont à peu près 10 à 12 minutes pour la secrétaire, puis à peu près presque 20 minutes pour l'infirmière. Alors, c'est vraiment là, une évaluation qui se fait. La clé, c'est de bien aiguiller pour conserver le lien de confiance là que le patient ou le citoyen peut avoir en appelant. Puis, conserver le lien de confiance aussi. Quand on fait une référence à un professionnel, là, le professionnel sait qu'il a bien été évalué, là.
OK. Et l'attente pour ce rendez-vous avec le professionnel n'est pas trop long non plus?
Ben, c'est ça. Il y a deux sortes de délais. Il y a le délai pour capter l'appel. C'est-à-dire, quand le patient appelle, là, la clé là-dedans, c'est de le répondre rapidement. Alors, dans la journée même, nous, on est ouvert là, de 8h à 18h. Puis, sinon, il y a un répondeur. Alors, dans l'espace de 24 heures, là, à moins que vous appeliez le jour, là, le jour, vous êtes répondu tout de suite. Sinon, il y a un petit délai là, le soir, la nuit, puis le lendemain matin, on fait des retours d'appel. Ça, c'est pour capter l'appel, on capte le besoin, puis ça, c'est très important de le faire rapidement. Le service au bon professionnel, ça peut s'échelonner sur quelques jours, la journée même, ou jusqu'à 2 semaines. Quand une personne, par exemple, a un formulaire à faire remplir, le formulaire, c'est moins important que, par exemple, se donner un coup de marteau sur un pouce. Là. Fait que on agit en fonction de l'urgence du cas.
OK. Je vous donne un exemple là, qu'on me soumet assez souvent par des courriels. Là. Quelqu'un qui a fait renouveler ses ordonnances par le pharmacien, mais là, il n'est pas capable d'avoir son médecin. Est-ce qu'il appelle, puis vous y trouvez une façon de pouvoir donc renouveler ses médicaments?
Oui. Le deal qu'on a avec les pharmaciens, bien, premièrement, les appels pour les pharmaciens, là, c'est à peu près 1 appel sur 6. C'est beaucoup d'appels là, pour les ordonnances de médicaments. Les pharmaciens, avec le projet de loi 31, là, la loi sur les pharmacies, ont eu une extension là, de leur capacité d'agir. Puis, ils nous aident beaucoup là-dedans, fait qu'ils prolongent les médicaments. Ce qu'on veut avoir avec une entente avec les pharmaciens, c'est quand le patient devient instable ou qu'il développe un symptôme ou si le pharmacien fait des prises de sang et se rend compte que les prises de sang sont pas normales, à ce moment-là, ça déclenche une demande de rendez-vous auprès du médecin. Fait que dans le fond, quand tout est beau puis la mer est calme, on laisse ça aller, le bateau avance tout seul. Puis quand il commence à avoir des vagues, là, le médecin intervient.
OK. Là, vous êtes cité en exemple par le syndicat des médecins, puis par le ministre, qui pourtant ne s'entendent pas pantoute sur le projet de loi 11. Le ministre dit, moi, je vais aller chercher de l'info, je veux obtenir des données de la Régie d'assurance maladie pour voir quels sont les médecins qui travaillent à temps partiel, quelles sont les plages horaires disponibles. Le syndicat dit, c'est une chasse aux sorcières. Là, vous allez témoigner, vous, en commission parlementaire?
Ben, je vais témoigner cet après-midi, là.
OK, vous allez leur dire quoi?
Mais dans le fond, pourquoi je suis capable de vous parler ce matin, c'est que moi-même, comme chef de département régional, là, j'ai accès à des données. Hein? Je suis très respectueux de ces données-là et de la façon de les obtenir. Puis, je pense que les médecins du territoire me font confiance sur la gestion de ces données-là. Et puis, sans ces données-là, là, on n'aurait pas pu faire le projet. Je pourrais pas vous parler ce matin. On pourrait pas constater qu'il y a 50% d'orientation qui se fait pas vers un médecin. La donnée, c'est important en gestion pour évaluer l'offre et la demande. On observe ça à différents niveaux en gestion, là. Et puis, il s'agit de garder un bon climat. Puis, finalement, on fait une bonne gestion. Puis, on est transparent avec nos médecins. On leur montre les données. On leur montre là où on est rendu. Puis, on n'abuse pas de ces données-là.
Mais donnez-moi un exemple que je comprenne, parce que les données que vous avez, là, ça n'a pas pris une loi pour les obtenir.
Non, on a un accès à un certain nombre de données quand on est dans le rôle que j'occupe. Là.
Okay.
On a différents rapports qui nous sont fournis, qui viennent de la facturation médicale. Là. C'est la RAMQ qui nous transmet des données. C'est des données. Les données de la RAMQ ont toujours un décalage là dans le temps. C'est pas des données le jour. Là. Il y a quelques mois de décalage, sauf que c'est quand même des bons indicateurs. Alors moi, si on me demande quelle est la force de travail des médecins au Bas-Saint-Laurent, je suis capable de vous le dire. Je suis capable de vous dire qu'ils font tant de rendez-vous dans une année. Puis après ça, c'est de voir c'est quoi le comportement des citoyens qui vont demander des services. Le comportement des citoyens, on le connaissait à peu près, mais là, on le connaît de plus en plus. Fait que on est capable de faire une adéquation demande du citoyen versus offre du professionnel de la santé.
Puis ça veut dire que quoi, comme vous connaissez l'activité, par exemple, de vos médecins, vous êtes capable de leur dire, puis là, c'est comme vous dites, un lien de confiance, puis un climat que vous établissez, mais y a-t-il moyen d'ouvrir un peu plus de plages? Êtes-vous capable, collectivement, d'être plus disponible, des trucs comme ça?
C'est surtout d'utiliser les plages de façon différente. Il y a toutes sortes de stratégies là, pour utiliser les plages de façon différente. Moi, c'est le deal que j'avais avec les médecins du Bas-Saint-Laurent, c'est on ne vous demande pas de travailler plus. On vous demande de donner une petite place aux patients orphelins, puis c'est de l'ordre de quelques pourcentages là, de plages dans leur booking. Puis finalement, on leur dit aussi, écoutez, là, nous, on va gérer la pertinence des appels. On vous demande, en contrepartie aussi, à l'interne, de faire une petite place et de voir la pertinence interne de vos organisations pour voir comment dégager ce qui est nécessaire pour les patients orphelins.
Est-ce que vous avez senti, depuis l'implantation de ce projet, une baisse de la fréquentation, par exemple, des salles d'urgence?
En fait, il y a eu un impact, mais l'impact sur les salles d'urgence, il est difficile à discriminer parce qu'il y a eu toutes sortes de facteurs qui ont joué là-dessus. Entre autres, il y a eu la COVID, là. Puis, lors de la COVID, là, dans la première année, il y a eu 1 million de consultations de moins au Québec dans les urgences, vous le savez, là. Fait que je suis pas sûr que c'était attribuable au guichet, mais on observe effectivement qu'il y a si ces patients-là n'avaient pas appelé au guichet, ils seraient là à l'urgence. C'est leur seule porte de sortie, les orphelins, actuellement. Fait que là, nous, on leur offre une alternative. Au lieu de se déplacer et d'attendre des heures à l'urgence, ils appellent au GAP.
Puis vous êtes les seuls à faire ça au Québec actuellement?
Je dirais qu'il y a quelques régions, là. Ça fait, nous, on a commencé au printemps 2020, puis on a consolidé ça à l'automne 2020. Puis depuis ce temps-là, on a présenté le modèle à différents, mes collègues chefs de DRMG. Puis finalement, il y en a quelques-uns qui ont commencé à l'implanter. C'est un mouvement qui est en marche. Et puis, il y en a quelques-uns qui l'expérimentent de différentes façons. Mais nous, on a la plus grande ancienneté avec les résultats probants qu'on a.
À la fin de votre témoignage, qui va vous applaudir, le ministre ou le président du syndicat?
Les patients.
C'est une maudite bonne réponse. Merci beaucoup, Dr. Lavoie.
Au plaisir, M. Arcand.
Au revoir. Bonne journée. Dr. Éric Lavoie, médecin de famille, chef du département régional de médecine générale au 6 du Bas-Saint-Laurent. C'est intéressant parce que les deux le donnent en exemple. La formule est relativement simple à comprendre. Vous êtes patient orphelin, vous n'avez pas de médecin, vous avez besoin d'un professionnel. Vous appelez un numéro, on détermine lequel vous devez voir. Est-ce que c'est un pharmacien? Est-ce que c'est une infirmière? Un autre type d'intervention, d'intervenant? Puis on vous envoie, ce qui fait que les médecins sont peut-être moins surchargés, voient vraiment les cas qui s'adressent à eux, mais surtout que le patient a obtenu le service dans un délai qui est plus raisonnable que d'attendre le fameux guichet là, pour le médecin de famille. Mais vraiment un exemple intéressant. Est-ce qu'on peut l'appliquer ailleurs? Est-ce qu'on va le décliner partout? Puis là, ça va être toujours la même chose sur le plan du projet de loi. Ça prend des données, mais jusqu'où on va dans les données? Puis comment on établit ça? Mais au moins, tu dis, il y a du monde qui travaille sur des solutions qui semblent, en tout cas, donner des résultats.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Erin O'Toole, le chef conservateur, s'est fait montrer la porte, et pas un peu, là, c'est-à-dire 73 députés sur 118 qui ont voté pour la destitution de leur chef. Plusieurs ont pensé qu'il aurait peut-être, voyant venir le coup, annoncé sa démission, mais il s'est soumis au vote. Il a perdu. Et il y a donc maintenant Candice Bergen qui dirige de façon intérimaire la formation. J'en parle avec le député de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltel. Monsieur Deltel, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Vous ne devez pas être surpris du résultat. Vous deviez, j'imagine, sentir un peu le vent.
C'est sûr, bien entendu, mais c'est pas le résultat que j'aurais souhaité, bien entendu. J'ai travaillé pendant un an et demi, jour après jour, collé sur Erin O'Toole, un homme de grande qualité. Et maintenant, ben, faut regarder en avant.
Mais il faut regarder un peu en arrière aussi pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Comment le parti en est arrivé là?
C'est sûr qu'au lendemain d'une élection où on a perdu, même si on a eu plus de votes que l'adversaire, c'est arrivé deux fois, les chefs sont toujours mis sur le grill. C'est arrivé avec M. Scheer, ça arrive actuellement avec M. O'Toole. Alors, dans notre système, dans notre parti, on a ce système-là qui permet aux députés de se prononcer là-dessus. Il y avait quelques griefs, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que les gens sont prononcés, et nous, ben, on respecte la volonté des gens. Monsieur O'Toole, bon, comme vous le disiez, aurait peut-être pu démissionner parce que on sentait peut-être ça venir, mais comme un soldat, il est resté jusqu'à la fin pour défendre sa situation et sa position.
OK. L'image qu'on a de l'extérieur, là, c'est que des éléments plus fondamentalistes, plus radicaux, plus à l'extrême, disons, plus droite, si on veut, sont en train de prendre le contrôle du parti, que M. O'Toole était un homme plus au centre, les politiques, ou en fait les promesses ou les prises de position n'allaient pas dans le sens de cette minorité peut-être, mais qui semble assez puissante, là.
Ben, on n'était pas là non plus, là. Je veux dire, au lendemain d'une élection décevante, c'est sûr qu'il y a des griefs sur la campagne électorale, comment ça s'est passé, c'est mécanique. La gestion d'un caucus aussi, c'est une chose. Alors, il y avait différentes personnes qui avaient des éléments qui étaient froissés avec ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a demandé à l'ancien député, M. Cumming, de faire un rapport sur les éléments de faiblesse de notre campagne électorale qui ont conduit à la défaite pour trouver des solutions. Alors, c'est sûr qu'il y avait des éléments de la campagne qui ont joué beaucoup, un peu comme d'ailleurs c'est arrivé avec M. Scheer il y a deux ans.
Oui, mais prenons des cas. M. Poilievre qui se prend, qui affiche des positions assez radicales, qui va voir les camionneurs, d'autres qui ont des positions sur l'avortement. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que vous reconnaissez le parti pour lequel vous êtes présenté la première fois?
Ben oui, absolument.
Il n'est pas en train de virer à droite complet, là?
Hey non, regardez, là, on parle d'un gouvernement responsable. Ça, c'est ce qui nous anime, nous, les conservateurs, d'avoir un gouvernement responsable, surtout quand on voit devant nous autres quelqu'un qui dépense sans compter. On est un gouvernement on est un parti qui croit à la sécurité publique, qui soit faite de mener de façon sérieuse et rigoureuse aussi. On croit à ça nous rassemble. La protection des victimes, c'est quelque chose qui nous rassemble et qui nous unit. C'est pourquoi on s'est présenté, dans mon cas, depuis 2015, et la défense nationale également.
Alors, qu'est-ce qui vous divise?
Ben, il y a des facteurs qui font que des gens étaient déçus du résultat de la campagne électorale, comme c'est arrivé avec M. Scheer, puis malheureusement, un chef qui perd en un long fardeau à porter, puis c'est ça qui s'est passé hier avec la décision du caucus de dire bye-bye.
OK. Mais là, parlons des camionneurs, là, qui, ça va faire une semaine, qui sont installés devant la colline parlementaire. Quelle lecture vous faites de ça? Moi, j'entends des députés comme... certains de votre parti là qui disent c'est parfait, c'est le droit de s'exprimer, puis on est d'accord avec eux, puis on les appuie dans leur démarche. J'en entends d'autres qui ont l'air à taper du pied aussi. Vous en pensez quoi, vous, de la manif ou du siège?
Tout ce qui traîne ne peut avoir que des effets négatifs, et je pense que vous l'avez très bien démontré avec votre reportage il y a quelques minutes à peine. Je tiens à vous rappeler aussi, là, j'ai vu ça il y a quelques instants sur les fils de presse, semble-t-il que les manifestants vont tenir un point de presse à une heure. Alors, on souhaite évidemment qu'ils puissent dire, bon, ben, on a fait notre point, puis on va ailleurs. Mais ce qui est décevant là-dedans, et vous l'avez vous-même mentionné, le premier ministre Trudeau, il les ignore complètement. Vous savez, un chef d'État doit rassembler les gens, particulièrement dans des crises, et non pas les mépriser. On a vu il y a deux jours, le premier ministre du Québec lancer des messages qui cherchaient justement à regarder en avant. T'sais. Comme le dit M. Legault, mon rôle de premier ministre, c'est aussi d'assurer une certaine paix sociale. Essayons de se parler, de se rassembler pour être capable de tourner la page. Je m'inquiète de voir le peuple divisé. Un chef d'État doit rassembler les gens et non pas mépriser ceux qui ne pensent pas comme lui, comme le fait M. Trudeau à des fins politiques partisanes.
Mais vous souhaiteriez quoi que M. Trudeau ou quelqu'un de son entourage négocie avec les manifestants?
c'est pas tant une question de négocier quoi que ce soit, mais à tout le moins de voir ben, qu'est-ce que vous avez à dire. Vous savez, c'est pas dans le mépris que l'on va, on ne fait que dresser les gens les uns contre les autres. Mais comme je vous le disais, ça fait une semaine que ça dure. L'impact maintenant, c'est pas sur Justin Trudeau, c'est sur les travailleurs, c'est sur les entreprises, c'est sur les gens qui vivent ici à Ottawa, mais également à Gatineau, qui dont leur vie est actuellement malheureuse à cause de cette situation-là. Donc les victimes de cette situation-là, c'est pas ceux qui veulent brasser la cage, c'est pas ceux qui veulent que les gens qui manifestent veulent brasser, c'est-à-dire le gouvernement Trudeau, au contraire, lui, il regarde ça puis il les ignore complètement. Il met de côté son rôle de chef d'État qui devrait rassembler les gens, puis les écouter, puis les respecter. Non, il les insulte. Le résultat, c'est qu'actuellement, après une semaine, c'est les gens qui sont tout autour qui tournent, et moi, je pense qu'après une semaine, ben, il est temps de faire autre chose.
Je reviens à votre parti, parce que votre parti a connu différentes périodes dans son histoire. On se souvient de la fameuse alliance que Brian Mulroney avait réussi à créer, donc ça l'a amené au pouvoir. On a vu également ce que Stephen Harper a pu faire à l'époque. Et là, est-ce qu'on retourne vers un parti conservateur? Puis là, je comprends, vous allez me dire, là, après une élection, après une défaite, c'est sûr qu'il y a des gens qui grognent, là. Mais c'est comme si d'un côté, on retrouvait là, l'espèce de clivage entre les conservateurs de l'Ouest, plus à droite, plus dans l'alliance, peut-être plus proche de Maxime Bernier, puis des députés québécois, là, qui vont avoir de la misère à se retrouver dans cette formation-là.
Alors, comme je vous ai dit tantôt, les troncs communs sont toujours là, puis resteront là. Qu'on veut un gouvernement responsable, qui est sérieux dans les dépenses publiques, qui croit à la défense, puis à la sécurité, puis entre autres à la protection des victimes. Ça, c'est les troncs communs qui nous unissent tous. Mais oui, vous parlez de l'équipe du Québec. 10 députés, dont 7, qui ont été élus avec plus de 50% dans l'élection, dans leur comté. C'est des gens qui sont très, très forts. Vous avez écouté la période de questions hier. Je peux vous dire que les Luc Berthold puis Dominique Vien, qui ont posé des questions très pointues et très sévères envers le premier ministre sur ce qui touche tous les Canadiens actuellement, c'est-à-dire le coût de la vie. Ça, c'est des députés du Québec qui portent la voix forte et percutante de l'opposition.
Mais là, vous reconnaissez pas que vous avez un parti déchiré, là. Je vous écoute, là, je respecte votre point de vue, vous êtes motivé, mais vous avez un parti divisé, là. Vous avez un parti qui est déchiré.
C'est sûr qu'après le départ d'un chef, là, il y a une course au leadership qui va amener des gens à se présenter, qu'on va pouvoir mesurer quels sont les intérêts, quelles sont leurs valeurs, quelles sont les qualités qui feraient que ces gens-là, que cette personne-là, cet homme ou cette femme-là, pourraient être bonne pour diriger notre parti, pour convaincre les Canadiens. Parce que l'objectif ultime, c'est pas de se faire plaisir entre nous autres, les conservateurs, c'est de convaincre les Canadiens à adhérer à nos valeurs, à nos idées, à un gouvernement qui est responsable et qui pense d'abord à l'avenir de nos enfants plutôt que de dépenser sans compter. Et on va voir si la personne qui est capable de se distinguer à travers la course au leadership, va être capable de convaincre les Canadiens. Rappelons-nous que depuis les deux dernières élections, on a eu plus de votes que les libéraux. On en est content, mais Torpino, ils ont eu plus de députés. On sait aussi qu'on a 10 députés au Québec qui sont solidement enracinés puis qui font honneur aux gens qui ont voté pour eux. On sait aussi qu'on a augmenté de 70 000 votes notre vote au Québec, alors que tous les autres partis ont perdu des votes. Nous autres, on l'a augmenté à la dernière élection. Alors oui, les Québécois sont là, puis oui, les Québécois sont là pour rester, puis oui, on va regarder attentivement ce qui va se passer à la course au leadership pour débusquer la personne qui, à notre point de vue, va être la meilleure pour convaincre les Canadiens pour diriger le pays à la prochaine élection.
Vous avez eu plus de votes avec un chef qui vient de se faire mettre à la porte.
Et nous avons été élus solidement. Nous avons de très bonnes équipes, de très bons candidats.
Non, mais avec je minimise pas les candidats, là, mais avec un chef qui prenait des positions qui, visiblement, ont déplu à une partie du caucus.
Comme je vous ai dit tantôt, M. Arcand, c'est pas un facteur qui fait qu'un type se fait mordre la porte comme c'est arrivé hier. C'est des séries de facteurs qui font ça. Les gens ont eu l'occasion de le dire. Ils l'ont dit hier. Évidemment, personnellement, vous aurez compris que j'ai voté pour M. Auto.
Ça, c'est clair.
Mais je respecte la volonté de mes collègues.
C'est quand même un drôle de paradoxe. Les camionneurs débarquent pour exiger le départ de Trudeau, puis c'est M. Auto qui s'en va finalement.
Oui, puis on peut dire aussi que c'est pas le jour de la marmotte ces temps-ci aujourd'hui. Là.
C'est hier.
Aucun pourrait faire des farces avec ça, mais comptez pas sur moi pour le dire.
OK, puis on comprend que vous ne serez pas candidat, là. J'ai cru décoder ça.
Vous avez votre décodage est toujours bon, M. Arcand.
Merci.
Je ne serai pas candidat.
OK. Gérard Deltel, député de Louis-Saint-Laurent.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
l'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Maintenant, les îles de la Madeleine ont décidé de s'attaquer à l'hébergement touristique de courte durée. Donc, on sait que l'industrie touristique, c'est majeur. Mais en même temps, crise de logement, spéculation immobilière. Le maire des îles est avec nous, Jonathan Lapierre. Monsieur Lapierre, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Ça veut dire quoi, ça, s'attaquer à l'hébergement touristique de courte durée? Qu'est-ce que vous faites précisément?
En fait, je dirais qu'on s'attaque plus à l'hébergement de courte durée qu'à l'hébergement touristique. Parce qu'on ne s'attaque pas, évidemment, à l'industrie touristique, qui est une industrie de premier plan dans la communauté des Îles-de-la-Madeleine, avec plus de 90 millions de retombées économiques par année. Le défi auquel on est confronté actuellement, c'est le manque de logements disponibles à l'année et la surenchère qui est impactée sur la surenchère qui existe déjà, parce que les gens qui achètent des propriétés, des maisons unifamiliales, savent qu'ils peuvent en tirer un revenu de 15, de 20, de 25 000 $ par année. Donc, le portrait de la situation, on a des gens qui viennent des îles ou des gens qui viennent d'ailleurs au Québec, qui se pointent aux îles, qui voient des belles maisons en vente sur le bord de la mer avec une vue 360 ou presque sur l'océan. Et la maison, bon, un exemple, le prix de vente est autour de 300 000, 350 000. Et là, ils se disent, écoutez, soit que je jette un chalet sur le bord d'un lac tout tassé qui va me coûter trois quarts de million ou un million, ou j'ai un terrain de 100 000 pieds carrés aux îles de la Madeleine, belle petite maison coquette, 300, 350 000 $. Donc, la question se pose presque pas. Et là, il y a une surenchère. Et là, on se dit, en plus, il faut être capable d'aller chercher un revenu important. Donc, ça ne me dérange pas de payer 400, 450, 500, 550. Donc, pour ceux et celles qui habitent aux îles à l'année, pour les travailleurs et travailleuses qu'on attire aux îles pour combler le manque d'employés qu'on a pour combler les 1500 emplois disponibles, ben ça devient extrêmement rare de se loger puisqu'il y a peu de maisons sur le marché, des maisons unifamiliales en vente, et s'il y en a, ils se retrouvent dans le marché de la location court terme.
Okay, mais...
Et il y a peu de logements locatifs à l'année.
OK, deux, trois choses. Je vais vous présenter un scénario un peu différent de ce que vous venez de me dire, là. Je vous donne le cas parce que il y a des gens qui nous ont parlé, là. Un monsieur qui a acheté une maison aux îles au mois de juin. La maison est à vendre depuis un an. Il a investi, puis c'était pas un palace, là. C'est une maison qui a besoin d'amour puis d'être retapée. Il a mis de l'argent pour rénover cette maison-là. Et jamais il a entendu parler jusqu'à tout récemment, là, de cette interdiction de louer pour des séjours inférieurs à 31 jours. Les îles, vous avez donné le permis de rénovation, puis bon. Est-ce que ça n'aurait pas été plus correct pour les acheteurs de ces maisons-là de le savoir longtemps d'avance? Ils n'auraient peut-être pas acheté dans un tel contexte.
En fait, ces acheteurs-là, ce qui n'est pas correct, c'est s'ils avaient une intention déjà de faire commerce avec leur propriété secondaire. Première chose qu'on fait partout au Québec, c'est de s'asseoir avec la ville et dire « Moi, j'ai une intention d'acheter, de rénover. Qu'est-ce que je peux faire? » Et vous savez, au Québec, pour faire commerce avec une propriété, ça prend un permis de la CITQ, qui, lui, la CITQ valide la conformité du zonage et des règlements auprès de la ville. Et la ville, ensuite, émet un permis pour que la personne puisse faire commerce. Le problème qu'on vit aux îles, et j'imagine un peu partout au Québec, c'est qu'on a des gens qui achètent une maison secondaire qui n'ont pas tout à fait les moyens de l'acheter et pour combler un manque à gagner financier, ont besoin de la louer. Ça, comme humain, comme personne...
Bien là, M. Lapierre, c'est toujours bien pas interdit de m'acheter une maison puis de faire
Non, mais non, absolument pas, absolument pas. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est tout simplement valider la mise en conformité avec la ville. Au même titre que moi, si je jette un condo dans une tour à condo, je peux pas le louer, le condo. Donc, il faut que je m'informe des règles de la tour à condo. Il faut de la copropriété avec le syndicat de copropriété. C'est la même chose au niveau des règlements. Même chose à Montréal, même chose à Québec. Donc, nous, on ne dit pas que les gens peuvent pas faire ce qu'ils veulent à l'intérieur des quatre murs de la maison. On se mêle pas non plus des finances des gens, loin de là. Nous, ce qu'on dit, par contre, c'est qu'à partir du moment qu'on veut faire un commerce avec une maison, bien, il faut s'informer si on peut, si on est dans le bon zonage, par exemple, s'il y a des conditions particulières ou s'il y a des permis qu'il faut aller chercher. Et c'est là le problème. Maintenant, tous ceux et celles qui le faisaient avant l'adoption du règlement, donc tous ceux et celles qui avaient un permis, qui le faisaient en toute légalité, eux ont un droit acquis, donc ils sont reconnus et pourront continuer d'ailleurs d'opérer de la même façon qu'ils le faisaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un permis,
okay, mais...
parce qu'eux avaient fait les bonnes démarches.
Là, je comprends, mais des gens qui achètent de bonne foi, qui rénovent, et qui, après ça, décident... C'est pas, c'est quand même pas des criminels, là, je veux dire, ils ont décidé d'investir comme ça. Là, vous me dites qu'ils auraient dû le savoir. Moi, je vous dis, vous auriez peut-être pu leur dire.
Non, mais écoutez, il n'y a personne ici qui parle de criminel. Il ne faut pas exagérer non plus. Là. On ne fait pas une chasse. Il n'y a pas de police qui va courir après eux. Ce qu'on dit, c'est qu'au Québec, en matière d'habitation, les gens doivent se présenter à leur ville. Ce n'est pas exclusif aux Îles-de-la-Madeleine.
Non.
Donc, toute personne se présente à une ville et s'informe. Qu'est-ce que je peux faire ou pas? C'est pour ça qu'il y a des schémas d'aménagement. C'est pour ça qu'il y a des zonages.
Ça, je comprends
tout
ça.
On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Donc, les gens qui... Alors, nous, on peut pas prétendre à l'avance...
Vous avez annoncé ça quand, ce projet-là? Vous avez annoncé ça quand?
En fait, l'automne dernier.
OK, fait que des gens qui ont acheté le printemps dernier, eux autres, ils l'ont eu sa gueule en prenant ça cet automne.
Ah ben, autant que nous, qu'on ne savait pas que c'était ça leur projet, M. Arca. Une ville ne peut pas prétendre, sans parler à ses citoyens, qu'est-ce qu'elle va faire.
Okay, donc nous, moi, M. Lapierre, je vous reconnais le droit de faire ce schéma-là, puis c'est important que les municipalités le fassent.
Ben oui, évidemment.
C'est aucun problème avec ça. Moi, je questionne un peu le délai, la période d'avis.
Mais non, mais écoutez, M. Arca, un conseil municipal est autonome et souverain.
C'est vrai.
Donc, aujourd'hui...
Mais il peut respecter ses concitoyens, par exemple. C'est pas interdit.
Ah, ben, mon Dieu! Mais c'est sûr qu'on les respecte. On les respecte au plus haut point. C'est pour ça qu'on a annoncé ça l'automne dernier et que le règlement n'est pas encore adopté aujourd'hui.
Il va l'être la semaine prochaine.
Il y a un délai. Il va, ben, non, même pas. La semaine prochaine, c'est simplement la deuxième étape, donc le deuxième projet de règlement. Il n'y a pas de règlement qui est encore en vigueur. Donc, il n'y a pas de règlement qui va être en vigueur avant le printemps prochain. Okay. Mais vous savez, le conseil s'est réveillé un matin, a discuté avec sa population locale. La population locale a demandé haut et fort que le conseil intervienne en matière de location à court terme. C'est exactement ce que le conseil a fait.
Est-ce que ça veut dire... Est-ce que ça veut dire avec ça que ça gèle en quelque sorte l'offre de location touristique pour les îles?
En fait, oui et non. Parce que le règlement, ce qu'il propose, il n'interdit pas complètement la conversion de maisons unifamiliales en résidence de touristes. Il propose des zones où est-ce que ça sera permis. Donc, on vient limiter, encadrer, mais on ne vient pas complètement interdire. Et actuellement, il y a plus de 300 résidences de touristes qui sont autorisées, qui ont un permis de la CITQ, qui possédait avant l'adoption du règlement et qu'ils possèdent encore après l'adoption du règlement. Et évidemment, la ville, avec ses citoyens, avec le schéma d'aménagement, va suivre l'évolution de la demande pour soit agrandir les zones villégiateuses qui vont permettre cet usage-là, ou créer tout simplement des nouvelles zones. Parce que nous, ce qu'on doit éviter, parce que le territoire il est limité, il est exigu, donc on doit éviter que les gens se mettent à construire des maisons dans les zones forestières, le couvert forestier qu'il faut protéger, il est hyper important ici, parce qu'il maintient notre nappe phréatique, les zones agricoles qu'il faut protéger aussi, puis l'étalement, évidemment, parce que l'étalement, en ville, c'est vrai ici aussi.
OK. Là, comme on dit, la spéculation immobilière ou la flambée des prix, c'est pas propre aux îles. On le voit partout au Québec.
Tout, ouais.
Mais la question peut-être bête que je vais vous poser, est-ce que vous croyez que les gens qui se cherchent un logement vont avoir les moyens de s'acheter la maison que la personne voulait convertir, par exemple, pour de la location touristique? Autrement dit, là, est-ce que ça va être égal à égal? Ils feront pas de trucs touristiques, c'est sûr que ça va être un citoyen des îles qui cherche un logement qui va l'avoir.
Ah ben c'est ça, on n'a aucune garantie. Ce qu'on vient faire là.
Ça se peut-tu que ça soit trop cher pour les salaires payés aux îles?
Non. Vous savez, le salaire moyen par personne ici est plus élevé que la moyenne du Québec. Donc, ça n'a rien à voir avec le salaire. Ce que ça a à voir, par contre, c'est que forcément, s'il y a moins de maisons converties en commerce, pour faire du commerce, il va y avoir plus de maisons disponibles sur le marché, soit pour l'achat, soit pour la location. Donc, il y a les deux volants. Maintenant, celui qui loue une maison à l'année va payer un montant XY par mois, alors que le visiteur, celui qui vient de façon temporaire, paye souvent le même montant, mais par semaine. Mm-hmm. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes eaux. Ce qu'on veut favoriser, là, c'est des propriétaires de maisons secondaires ou unifamiliales qui vont favoriser la location annuelle plutôt que la location temporaire. Parce qu'il en va... Il en va du tissu social et économique des îles parce qu'il manque 1500 employés. Il y a 1500 emplois disponibles. C'est des commerces de détail, c'est des institutions, c'est des industries qui ont un manque flagrant d'employés. Et évidemment, personne ne peut s'en venir aux îles s'il n'y a pas un toit sur la tête.
C'est Lapierre,
à ça qu'on s'attaque.
Merci. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir. Jonathan Lapierre est le maire des îles. L'idée, c'est pas de contester le schéma. Au contraire, il faut que les villes fassent ça. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté de bonne foi le printemps dernier, puis qui ont investi leurs épargnes. Puis là, bon, est-ce qu'ils auraient dû le demander? Est-ce que le projet est arrivé cet automne? Fait que c'est sûr que tu fais le saut un peu quand tu te prépares à. Puis tu as déjà dépensé pour des travaux de rénovation.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.